Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Il est 7h44. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Alba Ventura.
Vous avez annoncé vendredi donc qu'il n'y aurait pas d'épreuve du baccalauréat, mais un contrôle continu. Hier, au grand jury RTL, Jean-Luc Mélenchon s'est dit réticent à cette décision parce que, dit-il, le bac est un diplôme qui a une grande importance. Il redoute que ce bac soit cette année dévalorisé. Il dit, je cite, que l'on rit au nez de ses bacheliers. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Est-ce que le bac option coronavirus sera un bac qui n'aura pas la même valeur que les autres finalement?
Non, il n'a pas raison. Et cette dernière expression que vous citez est affreuse. Jean-Luc Mélenchon veut faire une polémique politique et en réalité, en faisant ça, il attaque les jeunes de cette génération. Je ne trouve pas que c'est correct. D'autant plus qu'il sait que nous avons mis un certain nombre de garanties qui font justement une valeur à ce baccalauréat. Bien sûr, chacun comprend bien qu'on est en circonstances exceptionnelles et que si on avait pu le tenir sous les formes habituelles, on l'aurait fait, bien évidemment. Mais nous avons fait toute une série de choses qui doivent permettre de donner de la valeur, notamment le fait qu'il y ait un jury d'harmonisation. Ce jury va travailler très sérieusement à partir des notes obtenues pendant toute l'année. Et qu'est-ce que c'est qu'un diplôme, sinon quelque chose qui reconnaît un travail accompli de manière régulière? Et c'est ce qui se passe au travers du contrôle continu. Et par ailleurs, oui.
Si ça fonctionne, je me dis que vous allez peut-être être tenté de vouloir généraliser le contrôle continu et ciao le bac.
Non,
puisque ça va dans le sens de la réforme, d'intégrer une dose de contrôle continu, c'était votre souhait?
Oui, une dose, oui, mais pas la totalité. C'est ce qui vous montre bien d'ailleurs que je ne suis pas un fanatique du contrôle continu. Je pense qu'il faut une position d'équilibre. Et la position d'équilibre, c'est d'avoir une part de contrôle général et une part de contrôle continu. Parce qu'avec le contrôle général, vous avez en quelque sorte un point de repère final commun à tous. Et puis avec le contrôle continu, vous avez ce qui permet de valider le travail en continu, le travail permanent de l'élève. Donc les deux ont du bon et c'est bien d'avoir un peu des deux. Cette année, on aura plus de contrôle continu du fait des circonstances, mais on essaye d'en tirer aussi un certain nombre d'avantages, comme par exemple le fait que si la période de confinement est terminée dans l'intervalle, on aura réussi à faire travailler plus les élèves au mois de juin, parce que du fait du contrôle continu, il n'y aura pas les établissements pris par les examens en juin, comme c'est le cas habituellement. Donc les élèves auront réellement cours, tous les élèves, tous les lycéens, jusqu'au 4 juillet, dès lors que le confinement serait terminé. Eh bien, c'est une façon aussi de rattraper le temps perdu actuellement.
Est-ce que ça veut dire que ce mois de juin, vous l'imaginez en cours, c'est-à-dire à l'école, dans les lycées, dans les collèges?
Oui, si, dès lors que, bien sûr, la période de confinement serait terminée. Ça relève évidemment de ce que diront les autorités sanitaires, de l'évolution de l'épidémie. Mais dès lors que ce point-là serait, dès lors qu'on pourrait tous commencer à reprendre une vie normale, alors, oui, nous pourrions avoir cours jusqu'au 4 juillet, encore une fois.
Donc vos espoirs reposent sur un vrai mois de juin avec 4 semaines de cours?
Oui, encore une fois, si nous avons réussi, il y a évidemment un si. Le si, c'est si nous avons pu sortir du confinement à ce moment-là. Mais à partir du moment où on en serait sorti, où la société française en serait sortie, alors oui, ce serait possible. Vous m'entendez?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ça a coupé.
Est-ce qu'on a Jean-Michel Blanquer?
Allô?
Oui, monsieur Blanquer, vous êtes toujours avec nous.
Oui, on a été coupé, d'accord.
Donc si et seulement si c'est possible, si on va vers un déconfinement...
Si on a eu le déconfinement au mois de juin, alors le système de contrôle continu fait que les établissements, contrairement à ce qui se passe chaque année, ne seront pas accaparés par l'organisation des examens, mais pourront avoir tout simplement des cours jusqu'au 4 juillet. Et ça, c'est vrai pour tous les lycéens. Et vous savez que c'est un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'au mois de juin, très souvent, les élèves sont presque déjà en vacances. Ce ne sera pas le cas cette année, dès lors qu'on sera revenu du confinement.
Par ailleurs,
le travail qui est fait actuellement, si vous voulez, d'enseignement à distance, est fait pour que la période actuelle ne soit pas une période totalement perdue. Il y a évidemment bien des problèmes posés par la période actuelle, mais ce n'est pas une période blanche sur le plan du travail. Au contraire, on met tout en œuvre pour que les élèves de première et terminale travaillent. D'où le fait d'ailleurs que j'ai dit que les notes de troisième trimestre compteront pour le contrôle continu aussi.
On va revenir sur le déconfinement. Est-ce que la mise en place de ce contrôle continu n'accentue pas le décrochage de certains élèves? Vous aviez parlé de 5 à 8% d'enfants dont on n'a plus de nouvelles. Est-ce que certains ont raccroché? Est-ce que vous avez eu des informations?
Alors, nous travaillons beaucoup pour ce raccrochage, notamment parce que les professeurs téléphonent aux familles, parce que nous envoyons des courriers, parce que nous le disons dans les médias, parce que nous prêtons du matériel informatique. Donc tous ces éléments permettent progressivement, semaine après semaine, et nous sommes maintenant en train d'entrer dans la quatrième semaine, de rattraper certains élèves. Donc je ne désespère pas d'arriver à réinclure des élèves qui ont disparu par ailleurs.
Vous avez contacté les mairies, par exemple, pour avoir des nouvelles des familles ?
Bien sûr, tout le monde fait flèche de tout bois, si vous voulez. Ça commence par les chefs d'établissement, qui ont une forme de tableau de bord de tous leurs élèves, qui reposent ensuite sur leurs conseillers principaux d'établissement, sur leurs professeurs principaux. Toutes ces personnes se mobilisent pour appeler les élèves, et quand on n'y arrive pas, on emploie toutes sortes de moyens. Donc ça peut être avec les mairies, ça peut être avec les associations. Et là, il faut rendre hommage évidemment à tous ceux qui contribuent à cela. Mais tout le monde est concerné, je le dis d'ailleurs à vos auditeurs. Toute personne qui a connaissance d'un élève qui s'est mis un petit peu en dehors de l'enseignement à distance pendant cette période doit essayer de motiver cet élève pour qu'il revienne, puisque sinon on va accentuer les inégalités. Oh. Ceci étant, la France est aujourd'hui l'un des pays qui réussit le mieux cet enseignement à distance pendant la période de confinement. Donc on n'a pas à rougir de la situation, mais on doit faire encore mieux, bien sûr.
Alors ce contrôle continu pose évidemment bien d'autres questions pour les bacs professionnels. Quand même un tiers des lycéens sont en filière professionnelle. Dites-moi, monsieur le ministre, comment on évalue un élève qui n'aura pas fait notamment ces 3-4 dernières semaines de pratique en fin d'année? C'est là où on évalue notamment ses compétences. C'est un bac professionnalisant, ça donne du travail derrière.
Bien sûr, c'est un vrai sujet. Alors ça dépend.
Et les CAP d'ailleurs.
Tout à fait. Le problème que vous soulevez est un peu différent si on a réussi à rentrer en mai-juin ou pas, évidemment. Ce qui est certain, c'est que les bacheliers professionnels sont de toutes les façons une part de contrôle continu importante. C'est ce qu'on appelle le contrôle en cours de formation. Donc ça n'a rien de très anormal pour le bac professionnel de tenir compte du contrôle continu, comme pour le baccalauréat général ou le baccalauréat technologique. Donc c'est pas le fait du contrôle continu qui est embêtant, c'est plutôt le fait que certains gestes professionnels pourraient ne pas être contrôlés à la fin. Mais ça, on y remédiera, notamment parce qu'il y aura évidemment un après-crise. Il y aura aussi des stages de remise à niveau, il y aura des relations avec les entreprises, toute une série de choses.
On va leur faire rattraper cette pratique, c'est ça ?
Autant qu'on le peut. Vous savez, chaque bac pro est un cas particulier, parce que c'est des professions différentes, des métiers différents, mais on est toujours en lien avec le monde économique sur ces sujets. Vous avez des bac pro qui poursuivent dans l'enseignement supérieur, à peu près la moitié, et puis une autre moitié qui rentre directement dans le monde économique, dans l'insertion professionnelle. Et évidemment que l'on doit, pour chaque élève, avoir une approche personnalisée de ce qui va se passer ensuite. Mais notre but, c'est évidemment d'éviter le décrochage scolaire en bac pro comme pour les autres.
Alors, on sait par ailleurs que beaucoup d'élèves de terminale et notamment en bac pro s'investissent pour l'examen final. Si vous me permettez l'expression, c'est à la fin qu'ils mettent la gomme. Donc, ils seront forcément lésés. Est-ce qu'il y aura des consignes ?
Ils ont tout intérêt pour reprendre votre expression, à mettre la gomme, parce que d'abord, encore une fois, les notes de troisième trimestre comptent. Donc, ce qui est fait pendant la période de confinement a une utilité pour essayer d'augmenter sa note en travaillant au troisième trimestre. Et par ailleurs, pour ceux qui seraient tentés de se décourager parce que leur contrôle continu les amène en dessous de 8. Alors, d'abord, s'ils ont entre 8 et 10, ils ont un oral de rattrapage classique, qu'on a organisé selon les formes habituelles pour le début du mois de juillet. Et puis, s'ils sont moins de 8, ils peuvent, ils ont eu de la motivation et de l'assiduité qui est jugé par le jury d'harmonisation, eh bien, ils pourront passer leur bac au mois de septembre. Il y aura une session au mois de septembre dans les formes habituelles pour cela, dès lors qu'ils ont montré entre maintenant et juin motivation et assiduité. Donc c'est tout ce que nous avons décidé et fait pour inciter à travailler de manière équilibrée, mais à travailler.
Est-ce que ceux qui ratent le bac au rattrapage peuvent le passer en septembre ?
Non, ça c'est évidemment, il n'y a pas un double rattrapage.
D'accord. Alors, je me demandais aussi s'il allait y avoir des consignes, vous savez, pour les bacheliers qui fréquentent des établissements qui ont la réputation de noter plutôt sévèrement. Ils ont souvent des très bonnes notes à l'épreuve du bac avec mention. Et donc, si ce ne sont que les notes sévères qui sont retenues, on se dit bye bye les mentions. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Ils se disent, j'ai eu 14 toute l'année, au bac j'ai l'espoir d'avoir 19 puisque je suis noté très sévèrement. Et donc, une mention très bien. Et là, comment ça va se passer ?
Il y a une série d'effets possibles comme celui-là, mais plusieurs choses à dire. D'abord, si nous mettons en place des jurys d'harmonisation, c'est aussi pour tenir compte des différences de notation d'un établissement à l'autre. Le jury est souverain pour faire évoluer les notes en fonction de l'appréciation qu'il a.
Le jury d'harmonisation, c'est quoi exactement, monsieur le ministre ?
C'est le jury du baccalauréat. Comme chaque année, vous avez d'ailleurs un jury. Et donc, cette année, vous n'avez le baccalauréat que si le jury vous déclare bachelier. Et il vous déclare bachelier sur la foi de votre livret scolaire, donc de votre contrôle continu, des appréciations portées par vos professeurs, et qui seront portées donc à la fin du troisième trimestre, d'où l'intérêt pour chaque élève de continuer à travailler fortement actuellement. Et ce jury, qui est présidé par un inspecteur général à l'échelle de chaque département, harmonisera les notes pour tenir compte de toute une série de facteurs, y compris les différences de notation entre établissements. Nous avons certaines pratiques de cette harmonisation, on sait le faire. Par ailleurs, tout ceci est une incitation à objectiver au maximum les notes d'un établissement à l'autre. Vous savez, lorsque les élèves s'inscrivent dans Parcoursup, ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, ils le font sur la base du contrôle continu aussi.
Tout à fait.
Et les établissements, quelle que soit leur manière de noter, ont été amenés à ne pas être trop sévères dans leur manière de noter pour ne pas pénaliser leurs propres élèves.
J'ai encore une question sur le bac de français. L'oral est maintenu, pas l'écrit. Pourquoi ?
Oui. Parce que d'un point de vue pratique, l'oral est organisable si la période de confinement est finie. Et par ailleurs, l'écrit, nous avons au travers
si
du contrôle continu...
Si la période de confinement est finie.
Bien sûr. Tandis que s'agissant de l'écrit du baccalauréat de français, nous avons une base de contrôle continu, puisque les élèves ont fait des épreuves de français écrites tout au long de l'année. Ce qui n'est pas le cas de l'oral. Donc nous avons souhaité maintenir cet oral comme un point de repère, et puis pour inciter les élèves à travailler les œuvres qu'il présente ce jour-là.
Vous aviez envisagé, Jean-Michel Blanquer, comme hypothèse, la date du 4 mai pour reprendre les cours, mais c'est dans un mois. Honnêtement, c'est compliqué.
Ça reste, disons, le début du possible. Bien sûr que c'est compliqué et que c'était un des scénarios. Je n'ai jamais dit que c'était une certitude, que c'était le scénario évidemment le plus espérable, si je puis dire, le plus souhaitable. Dans la réalité, écoutez, j'ai pas une compétence particulière pour le dire. Les autorités de santé observent cela au jour le jour. Nous calerons sur ce qu'elles diront le moment venu, mais les mois de mai est possible, reste possible, bien sûr. Le mois de mai reste possible.
Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous.
Merci également à Florian Thiénot qui assurait la liaison technique. Merci, messieurs. Merci. Yves, je vous prends juste 30 secondes, si vous le permettez.
Mais je vous en prie, vous êtes chez vous.
Pour vous annoncer.
Enfin, vous êtes chez nous.
Non, je voulais quand même vous annoncer une bonne nouvelle.
Oui.
Vous vous souvenez du ver marin, dont on avait parlé, l'hémoglobine qui contient 60 fois plus d'oxygène que celle de l'homme.
Bien sûr.
C'était une découverte du biologiste Franck Zahle, soutenue par le professeur Lantieri. Mmh. Eh bien, il a obtenu le feu vert pour les essais cliniques sur des patients atteints du Covid en réanimation lourde. Et ça, c'est une belle nouvelle.
Et c'était sur notre antenne avec vous la semaine dernière. Merci beaucoup. On retrouve l'intégration.